Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Et ce matin, on s'intéresse à la féminisation de la langue française. On le sait depuis les bancs de l'école, le genre grammatical masculin l'emporte sur le féminin. Et c'est pour cela que l'écriture inclusive vise à démasculiniser notre langue, selon ses partisans. Nous verrons que l'histoire de notre langue est révélatrice du retard dans l'égalité homme-femme. Nous essaierons de comprendre pourquoi la féminisation de notre langue déchaîne autant de passion. Comme le rappelle l'un de nos invités, il vous suffit par exemple de lâcher le mot autrice ou écrivaine dans un tweet et de laisser mariner avec à la clé des réactions épidermiques, parfois explosives. Cela traduit évidemment le fait que toute langue est imprégnée d'enjeux sociaux qui dépassent le pur cadre linguistique. Vous verrez également pourquoi la féminisation de notre langue a d'abord commencé dans la francophonie au Québec par exemple. N'hésitez pas à participer à notre débat au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main vous face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, grand bien vous fasse.
524 7000, j'écoute.
Allô ?
Allô ?
Bonsoir madame.
Eh bien écoutez monsieur, j'ai eu la réponse pratiquement à ma question par la réponse de madame Dorman. Je me suis toujours posé la question, pourquoi un débat sur une chose si peu importante, que ce soit au féminin ou au masculin, la terminologie n'a pas d'importance. Je crois que le débat est plus profond que ça et... Le débat qu'il y a entre ces deux personnes, entre Mme Dorman et Benoît Groult, m'a déjà donné la réponse à ma question. C'était pourquoi, quelle importance ?
Quelle importance ? Alors,
quelle importance ? Moi, pour moi, ça n'a pas d'importance.
Eh bien, je crois que c'est ignorer complètement l'importance des mots. Je crois que les choses existent quand les mots existent pour les nommer. Je crois que les mots servent à forger une identité et que les choses n'existent pas sans les mots. Il y avait d'ailleurs un film de Godard où le mot « amour » était interdit et où l'amour disparaissait des mœurs. Et être obligé de se nommer d'un nom d'homme, c'est montrer qu'on est toléré dans une profession d'homme, que ce n'est pas une chose courante et normale. Et je crois qu'on peut être mal dans ses mots comme on est mal dans sa peau.
L'écrivaine Benoît Groult dans Le téléphone sonne le 26 avril 1984. Bonjour Bernard Cerchiglini.
Bonjour.
Vous êtes linguiste et professeur émérite de l'Université de Paris. Vous avez notamment publié chez Point Seuil « Le ministre est enceinte » ou « La grande querelle de la féminisation des noms ». Expliquez-nous ce titre en quelques mots, « Le ministre est enceinte ».
Eh bien, c'est simple. Pendant plus d'un siècle, et encore jusqu'à récemment, pour les fonctions éminentes, les puristes, l'Académie française, exigeaient le masculin. Il fallait dire d'une femme qu'elle était le ministre. C'était curieux, c'était incongru, car j'ai noté une fois dans le journal Le Monde que la ministre des Sports, Frédéric Bredin, qui devait sauter en parachute, n'a pas sauté en parachute. Et Le Monde disait, car le ministre est enceinte. Eh oui, il faut bien accorder le mot. C'est-à-dire que les puristes nous obligeaient à des constructions syntaxiques absurdes. Alors que la langue fonctionne bien, que la langue, jusqu'au XVIIIe siècle, féminisait librement, j'ai donc pensé qu'il fallait aider à faire sauter cette absurdité et ce carcan. Appuyer sur les revendications féministes et appuyer sur le grand changement linguistique qui nous venait du Québec. Nous avons dû lutter pendant plusieurs années, nous avons eu gain de cause. Et il y a quelques années, l'Académie française a rendu les armes et maintenant la féminisation est de bon usage.
Et on va raconter cette histoire ce matin. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Vous êtes normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Et vous avez notamment publié « Je parle comme je suis » aux éditions Grasset. Ça vous aurait embêté si j'avais dit que vous étiez maître de conférences et non pas maîtresse de conférences ?
Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai été élue à ce poste il y a 10 ans, c'était un poste de maître de conférences et ça ne me posait pas de problème du tout. Et aujourd'hui, on me désigne comme une maîtresse de conférences et ça ne me pose pas de problème non plus. Pourquoi ? Parce que cette évolution s'est faite tout doucement et qu'elle est dans le lexique et que les évolutions qui se passent le mieux, notamment auprès de la majorité des locutrices et locuteurs, c'est quand on s'en rend pas compte. Donc le langage et nos réactions par rapport au langage, tout ça, c'est affaire de perception. Donc oui, ça m'aurait peut-être embêté aujourd'hui, mais il y a 10 ans, pas du tout.
Bonjour Julien Soulier.
Bonjour Ali.
Ancien professeur de lettres classiques, vous êtes membre du comité d'experts et formateur pour le projet Voltaire et vous avez notamment publié etc. etc. La langue française se raconte aux éditions First. Bonjour Anne Dister, bienvenue.
Oui, bonjour Ali. Bonjour.
Vous êtes enseignante et chercheuse en linguistique française à l'université Saint-Louis de Bruxelles. Bernard Cerchiglini, pourquoi la féminisation des noms a longtemps échauffé les esprits ?
D'abord parce que la langue échauffe les esprits. C'est ce que nous avons de plus précieux en France. C'est ce qui nous a constitués. Et donc, toute l'histoire du français, c'est une histoire de querelle. Ça a commencé en 1542 avec un pamphlet pour la réforme de l'orthographe. Imaginez la réforme de l'orthographe. C'est une guerre depuis des siècles. C'est donc, en soi, un lieu de discussion. Par ailleurs, c'était une torsion imposée à la langue du jour où le statut des femmes a décru à partir du XVIIIe siècle. J'insiste, la féminisation des noms de métiers, c'est quelque chose qui est naturel dans la langue, qui le fut pendant des siècles, qui a dû changer parce que les femmes ont perdu leur statut, elles n'ont plus pu être ambassadrices, elles n'ont pas pu être préfètes, ainsi de suite. Et donc, on leur a imposé un masculin, alors que ce sont des personnes singulières qui ont un sexe qui se traduit dans leur profession. Il a fallu se défaire de cela, mais contre un purisme qui était au fond très solidement installé dans la misogynie. L'Académie française qui refusait cela, c'était celle de Maurice Druon. Maurice Druon, il aimait beaucoup les femmes, à la cuisine ou dans son lit. J'ai présenté une fois à Maurice Druon une jeune femme qui a dit « Je suis maîtresse de conférence ». Druon l'a regardée et lui a dit « Ah madame, conférence a bien de la chance ».
Oh. Et il faut rappeler que Maurice Druon était le secrétaire perpétuel. De l'Académie française. Julien Soulier, vous écrivez que la langue est parcourue de nappes phréatiques, parfois très profondes, dont les résurgences prennent l'aspect de geysers sociétaux.
Oui, et bien, la langue, effectivement, c'est, comme disait très bien Bernard, c'est un de nos biens les plus précieux. C'est quelque chose qui parcourt les siècles, qui parcourt la société, qui irrigue notre façon de penser. La langue, c'est une vision du monde. Donc forcément, quand on dit, je ne sais pas moi aujourd'hui, quand on dit un plan de sauvegarde de l'emploi au lieu de licenciement, ça ne dit pas la même chose. Ça dit la même chose, mais ça ne dit pas la même chose. C'est une vision du monde. Donc forcément, quand on maintient le masculin, là où le féminin, comme l'a dit aussi Bernard, s'imposerait très facilement, sans aucun problème, eh bien, forcément, c'est aussi ça relève de l'idéologie. Je pense que vouloir faire sortir la langue de l'idéologie, bien évidemment, on peut, si on a plusieurs, il y a différentes grilles de lecture. On peut effectivement, d'un point de vue linguistique, étudier les structures, mais on peut aussi, d'un point de vue plus sociolinguistique, étudier ces structures en tant qu'elles sont utilisées dans la société. Et quand on les utilise, eh bien, dans la société, forcément, on fait de l'idéologie. De toute façon, parler, c'est à un moment donné, je sais que c'est un mot qui fait peur à beaucoup de monde. Maintenant, on dit souvent, il faut sortir des idéologies. Moi, je pense pas. Je pense que dans l'idéologie, il y a idées, et les idées sont importantes.
Julie Deveux.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le débat sur le langage non sexiste, il regroupe plusieurs aspects. Et en fait, ce qui dérange beaucoup les linguistes aussi, hein, à propos de cette évolution proposée, c'est qu'il y a le lexique dont parle Bernard, où il y a eu en effet une intention misogyne d'exclure les femmes de l'espace public, de certains métiers qui commençaient à acquérir un prestige socio-professionnel. Et il y a la grammaire à côté. Et là, c'est plus délicat. Et là, c'est vrai qu'entre linguistes, déjà, c'est difficile à s'entendre et à se comprendre et à discuter, parce que c'est vrai que la grammaire en soi n'a pas d'intention, si vous voulez. Et il est vrai que le genre masculin est une catégorie grammaticale, donc on comprend pas trop parfois pourquoi on peut assimiler au genre sexuel. Mais on peut aussi dire que, bien que n'ayant pas d'intention, il y a eu une évolution, qu'il y a eu disparition d'un sens du mot homme, qui était, si vous voulez, le mot homme, en fait, en latin, on avait deux mots. On avait homo et vir. Homo, qui voulait dire l'homme comme représentant de l'humanité, enfin l'humanité, vous voyez. Et il y avait vir, qui était l'homme masculin, représentant mâle de l'espèce humaine. Et puis, en fait, ça s'est... vir a disparu, et c'est que le mot homme, en français aujourd'hui, qui désigne à la fois l'humanité, parfois, les droits de l'homme, et l'homme ne porte plus la moustache au XXIe siècle. Et c'est ça que récusent les féministes, et c'est vrai que il y a beaucoup d'emplois du mot homme, du coup, qui sont dits génériques. Mais si vous regardez, là ça devient très délicat, les études de psycholinguistique, il semblerait que ces emplois, genre de l'homme au sens générique, eh bien sont perçus quand même comme étant toujours masculins. Parce que c'est la première rencontre qu'on fait avec le mot homme quand on est enfant, c'est comme représentant mâle, par opposition au féminin. Donc c'est ça qui est délicat.
Et en Belgique, Anne Dister, est-ce que les débats sont aussi fiévreux ?
Sur la féminisation des noms, ils le sont pas du tout. Ce qu'on appelle donc la féminisation des noms, c'est ce que Bernard a rappelé, utiliser un mot féminin pour parler d'une femme. On a légiféré depuis longtemps, au début des années 90, vous me permettrez de dire 90, parce que parler de variation, j'imagine, avec des mots comme une auteure ou une autrice, et qui ne nous empêche pas de nous comprendre. Mais c'est vrai qu'au début des années 90, on s'est vraiment fait taper sur les doigts par l'Académie française. Et pour rappel, Maurice Druon, il s'est pas opposé qu'à maîtresse de conférence, parce que il a, dans un grand article, dit que le féminin qu'on utilisait en Belgique pour parler de la juge était une féminisation abusive. Alors, vous imaginez les réticences qu'il y avait sur tous les autres mots qui étaient plus marqués du point de vue morphologique. Mais donc là, aujourd'hui, cette question, c'est une question qui est vraiment bien réglée. Mais dans les études que j'ai pu faire, en France aussi, très majoritairement, il y a quelques mots sur lesquels on continue d'avoir des réticences, comme experte immobilière ou une agente, ou alors les fameux féminins conjugaux comme l'ambassadrice, qui serait la femme de l'ambassadeur et pas la personne qui exerce la fonction diplomatique. Mais c'est vraiment vraiment très minime par rapport à ce qu'on a pu avoir comme débat il y a 20 ou 30 ans sur le sujet.
Bernard Cerchiglini, on doit beaucoup à la francophonie. La féminisation de notre langue a d'abord commencé au Québec, par exemple.
Oui, et il faut y insister. C'est la première fois dans l'histoire de la langue qu'un changement linguistique commence en dehors du berceau de la langue, qui est, comme vous le savez, la Belgique du Sud et la France du Nord. C'est au Québec, au cours de la Révolution tranquille des années 70, pour parler comme Anne, que les femmes ont pris des droits, ont sont entrées dans des professions et ont décidé de féminiser leur profession. C'est un grand mouvement qui a commencé au Québec, qui est passé ensuite en Belgique, Anne l'a raconté, en Suisse, et puis qui malheureusement s'est arrêté à nos frontières, car le purisme a été massif. C'est dommage, car nous sommes tous d'accord, au plan du lexique, la question est réglé, c'est tout simple, c'est conforme à l'histoire de la langue, il fallait le faire. Mais c'était pas évident de dire une juge, une écrivaine. Vous vous rendez compte, encore il y a peu, certains trouvaient horrible le mot écrivaine, le mot autrice, qui ont été en usage jusqu'au XVIIe siècle. Le purisme est fondé sur une ignorance absolue du fonctionnement de la langue et de son histoire. Il faut le répéter.
Et il faut insister sur le fait que la province du Québec a été pionnière en matière de féminisation des noms de métiers. En 1979, un avis de l'Office de la langue française explique que l'absence de féminin professionnel relève pour lui de raisons historiques et non pas linguistiques. Dans cet avis, l'Office de la langue française a bien montré que le manque de dénomination féminine pour certaines professions venait de l'absence de femmes les exerçant et que la langue dispose, hein, vous le dites Bernard Cerchiglini, de tous les moyens morphologiques pour créer les féminins manquants.
Tout était dit par l'Office de langue française du Québec dès 79. Saluons le Québec, il a été pionnier.
Et peut-on dire que l'Académie française, c'est un euphémisme, a bloqué un changement linguistique qui s'était répandu dans toute la francophonie. Je cite, tiens d'ailleurs, au moment de la circulaire Jospin de 1998, l'académicien Marc Fumaroli, qui dénonçait une imitation tardive, timide, provinciale, coloniale, sur les traces du Canada et de la Wallonie, et il parlait même d'une mode sectaire qui a eu son épicentre dans les universités des États-Unis. Rappelez-nous peut-être ce qu'était cette circulaire Jospin de 1998, Bernard Cerchiglini.
Eh bien, c'était la deuxième tentative d'aider à la féminisation de la langue pour ce qui est de la langue administrative. L'État n'a pas à légiférer en matière de langue, mais il peut donner des directives à ses fonctionnaires. La première tentative, c'était celle de Benoît Groult, dont on a entendu la parole au début et dont je salue la mémoire. Un insuccès total. L'Académie française a fait reculer un gouvernement de gauche qui venait d'abolir la peine de mort et qui n'a pas osé abolir le masculin pour les professions. Jospin, convaincu de cette chose, poussé aussi par des ministres comme Ségolène Royal, qui ont, en Conseil des ministres, dit qu'elles étaient la ministre et qu'elles nommaient des directrices, a publié une circulaire qui a déclenché des foudres, un appel solennel au président Jacques Chirac. Il faut se souvenir que ça a été un combat violent, et que nous avons eu, vous citiez feu Marc Fumaroli, un discours misogyne étonnant de la part de personnes éminentes.
Comme
par ailleurs.
Lévi-Strauss, par exemple.
Lévi-Strauss, ouais, Georges Dumézil, Alain Perfit. Mon livre est un sottisier de la misogynie dans ce domaine. Fort heureusement, la page est tournée.
Alors j'aimerais qu'on s'arrête sur les débats autour du féminin d'auteur, autrice. Comment expliquez-vous que certains répugnent encore à l'utiliser, Julie Neveu, alors qu'on dit bien actrice, sénatrice, productrice, oui. lectrice. Pourquoi ce mot autrice focalise tous les débats fiévreux autour de la féminisation de la langue française?
Oui, écoutez, c'est sûr que, déjà, en effet, comme vous le rappelez, il y a l'analogie avec toutes les formes qui existent, l'alternance masculin-féminin, donc c'est étrange. Mais je pense que, contrairement à un petit peu à ce qu'on est en train de dire, en effet, il y en a plein qui ne sont pas d'accord encore avec autrice. Hein. C'est-à-dire c'est pas passé auprès de la majorité de la population, je ne pense pas. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est perçu, encore une fois, comme une forme complètement nouvelle. On est habitué à auteur. On a des femmes qui disent « Mais écoutez, moi, je ne veux pas... être considérée selon mon sexe, je voudrais que cette information ne passe pas et donc je voudrais être appelée auteur parce qu'il y a aussi, si vous voulez, une sorte de nobilité, je pense, noblesse, pardon, à acquérir ce prestige social qui était associé aux hommes, en fait. Vous savez, c'est une intériorisation et une reproduction dont des structures de hiérarchie établies. C'est tout à fait reconnu, connu dans, en sociologie. Hein. Donc, en fait, on perpétue le modèle parce que c'est encore le modèle du succès. Et ce qui est fou, c'est que ce dont vous avez parlé avec la francophonie, et Bernard le disait, c'est qu'en fait, pour la première fois dans l'histoire de la langue française, on a des locuteurs qui se pensaient comme étant les seuls et les locuteurs centraux, ceux qui donnaient les règles, ceux qui faisaient autorité sur la langue, qui sont bousculés et décentrés. Donc il faut véritablement que le francophone de France fasse une sorte de révolution copernicienne. La France n'est plus la terre, le centre du monde. Ah zut, il y a des provinces qui osent nous proposer autre chose et qui seraient peut-être en avance même du point de vue d'un progrès social. Donc il y a toutes ces résistances. Et je peux vous dire que autrice, oui, c'est encore rejeté, je pense, par les deux tiers de la population. Hein, parce que c'est une forme nouvelle. Et Ali, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en langue, comme dans tout, mais une forme perçue comme radicalement nouvelle suscite le rejet. Parce qu'on a l'impression qu'on nous l'impose, que c'est trop différent, que c'est une matière hétérogène. On veut la rejeter. Et si peut-être il y a un enjeu de pouvoir, comme on le disait, que auteur au masculin, perçu comme neutre donc par la plupart, correspond toujours au prestige social, eh bien on ne veut pas d'autrice.
Anne Dister, comment ça se passe en Belgique? On accepte beaucoup mieux autrice?
En fait, on a fait une édition mise à jour du guide de féminisation. Donc, en Belgique, vous avez eu la même chose en 98 avec Femme, j'écris ton nom de Jospin, où vous aviez une liste de termes au masculin au féminin. Mais cette liste, je pense qu'elle n'a pas été mise à jour. En Belgique, on l'a mise à jour pour la troisième fois en 2014. Et autrice était assurément pas utilisée. Donc, on a une note pour la forme autrice en disant qu'elle est utilisée en Suisse, mais elle n'était pas ni en Belgique, ni en France, ni même au Québec. J'ai beaucoup de contacts avec l'Office québécois de la langue française, et c'est une forme qui n'était pas là. C'est pas vieux, hein, 2014. Et c'est vraiment une forme qu'on a vue apparaître. Mais alors, ce qu'on recommandait, évidemment, c'était une auteure, avec le E ou pas le, si vous voulez, mais il fallait, ce qu'il faut quand on parle d'une femme, c'est mettre tous les déterminants, les adjectifs au féminin. Donc, on recommandait une auteure. C'est clair que si on devait refaire ce guide aujourd'hui, une mise à jour, on mentionnerait évidemment une autrice, mais pour moi, une autrice peut coexister à côté d'une auteure. Il y a de la variation. Cette variation, elle ne nous empêche pas de nous comprendre. Et cette forme, je pense qu'elle est vraiment revenue au devant de la scène parce qu'elle est audible. Autrice, sans aucun adjectif et sans déterminant, on sait qu'on parle d'une femme. Auteur tout seul, à l'oral, ben ce féminin, il n'est pas si audible. Je pense que c'est pour cette raison que ce féminin est vraiment revenu. Alors que comme Julie le disait, c'est un très vieux mot, c'est un mot qui a existé. C'est pas, il pose aucun problème dans la morphologie du français. Mais c'est clair qu'il focalise un peu l'attention aujourd'hui, comme dans les années 90, le féminin cafetière, où on trouvait que ça n'allait pas pour parler d'une femme. Ben aujourd'hui, c'est un peu autour d'autrice que les tensions se jouent.
Julien Soulier.
Oui, bah écoutez, moi je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des petits ajustements sur les suffixes de féminin, lesquels va-t-on utiliser, lesquels vont s'imposer. Alors c'est vrai que écrivain, moi je me souviens au Salon du Livre de Nice, une dame d'un certain âge qui passe devant le stand et qui me dit, qui voit, regarde mes livres et qui me dit, vous en pensez quoi vous de écrivaine? Je dis, bah écoutez, on dit bien riveraine, châtelaine, pourquoi pas écrivaine? Elle me regarde d'un air dubitatif, elle me dit, non c'est moche, et puis elle s'en va. Voilà, donc c'est vrai que cet aspect esthétique qui n'est pas forcément à négliger. Hein. C'est vrai qu'on a tous un petit peu, il y a des mots qu'on aime bien, qu'on aime prononcer. C'est bon. Écrivaine, alors on dit ça fait veine, mais écrivain ça fait vin aussi, donc je vois pas quel est le problème.
Exactement. Que pèse justement l'argument esthétique, Bernard Cerchiglini? Je pense à la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, hein, Hélène Carrère-Doncos, hein, qui nous dit, je la cite, « Si Madame Hidalgo veut se faire appeler Madame la Mère, c'est son droit, je respecte son choix, mais la mère, ce n'est vraiment pas beau. » Sur cet argument esthétique, Bernard Cerchiglini.
Julie a eu tout à fait raison de le citer, il me semble fondamental. Nous sommes tellement attachés à la langue que nous ne voulons pas qu'elle bouge. Et toute forme nouvelle est sentie comme laide. C'est très curieux. Nous avons tous des exemples d'avoir entendu « Oh, la préfète comme c'est vilain, l'écrivaine c'est moche », ainsi de suite. Il y a une esthétisation de la langue dans sa fixité qui est très étrange et je crois que là, il faut expliquer que la langue bouge dans le temps et dans l'espace et qu'une forme n'est pas en soi laide ou acceptable. C'était très étrange et il faudrait pratiquement écrire un livre là-dessus. D'où vient cette esthétisation de la langue?
Mais c'est une histoire d'habituation. Je dois vous avouer qu'il y a quelques années, autrice, je trouvais ça laid. Et aujourd'hui, je l'utilise naturellement, sans aucun problème. Julie Neveu.
Oui, oui, mais tout à fait, c'est une question d'habitude. En fait, tout ce qu'on croit beau, c'est ce à quoi on est habitué. Et moi, j'explique ça par le sentiment de la langue. C'est-à-dire que on a un rapport à notre langue qui est un rapport très sentimental. Surtout, c'est donc notre langue maternelle. On l'a entendue dès quand on était dans le ventre. On a notre cerveau s'est spécifié, vous savez, déjà pour notre langue. Et puis après, on a eu tout l'amour de nos parents qui nous ont encouragé à la parler, donc il y a un capital à la fois affectif, après doublé d'un capital social, quand vous arrivez à l'école, que vous apprenez des règles dans le labeur et qu'après vous les maîtrisez, et toute cette maîtrise devient une sorte d'automatisme inconscient. Et là, vous avez des gens qui arrivent et qui vous disent autre chose, mais pas du tout, tout votre être se révolte, c'est enraciné tellement profondément. Et donc, moi j'entends sans arrêt, ah ça m'écorche les oreilles, non mais mes oreilles saignent, c'est affreux, autrice et tout. Et Ali, moi je suis comme vous, la première fois qu'on m'a demandé si je voulais être autrice, c'est il y a pas très longtemps, je vous avoue que j'ai dit je préfère auteur, parce que, c'est des questions d'habitude, en fait. Et dans 10 ans, je serai là, mais auteur, c'est horrible, comment j'ai pu vouloir être appelé auteur? Est-ce que c'était une horrible...
Pascal. Moi, j'ai entendu Pascal quelqu'un dire, le ministre, c'est très vilain. La ministre, c'est très vilain.
Mais bien sûr, bien oui. sûr.
Pascal nous écrit, j'ai une question qui concerne le sujet du jour, et c'est une question sérieuse. Si je dois faire appel à une avocate, dois-je l'appeler maîtresse? Je précise que c'est Pascal E, avec un E. Qui veut répondre à cette question, Julien Soulier?
Non, ça tombe sur moi.
Pas moi non plus.
C'est le problème délicat.
Ou alors avec... maître, maîtresse, selon quand vous prenez les dictionnaires, le petit Larousse ou le Robert, on voit bien que là, il y a vraiment quelque chose. Il y a de grandes hésitations.
Il y a un flottement. Selon
les lexies, enfin les locutions qu'on retrouve, maître de ou maîtresse, il y a de grands flottements. Est-ce qu'il faut laisser cette forme épicène, maître, donc qui serait valable à la fois pour le masculin ou le féminin, ou est-ce qu'il faut féminiser? Ça dépend vraiment, ça des maîtresses d'ouvrage, maître d'ouvrage, voilà. Est-ce qu'il faut lexicaliser sous la forme maître?
On peut dire un maître.
Voilà, on peut dire un maître, une maître, comme un juge, une juge. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hésitations, et je pense que petit à petit, l'usage tamisera, l'usage fera le tri, et puis...
On peut dire madame aussi, un avocat. On dit bien madame à la reine d'Angleterre. Pourquoi continuer à dire maître à un avocat, vous voyez? Mais c'est vrai que un des rares petits problèmes avec matelot, matelote, médecin, médecine.
Quelques mots, vite fait
le tour.
Guylaine nous écrit, je suis une avocate québécoise spécialisée dans le domaine des droits de la personne. Je considère qu'il est indispensable de féminiser les mots, ne serait-ce que pour les petites filles, pour que les petites filles puissent se forger une identité et se projeter dans l'avenir. Au Québec, on dit aisément la juge, la mairesse d'une ville, une écrivaine, l'ambassadrice. C'était bizarre il y a 20 ans, mais c'est maintenant devenu tout à fait naturel. Restez avec nous dans quelques instants, on s'intéressera notamment à l'écriture inclusive, qui suscite bien des débats. Et en attendant, on écoute Nina Simone.
Mmh.
Nina Simone and God No.
D'abord, la langue française est un trésor. C'est évident que c'est un trésor commun.
Grand bien vous fasse.
Comme nos arbres ou comme la mer, on protège les arbres, il faut protéger la langue.
Sur France Inter.
10h34 et on s'intéresse ce matin à la féminisation de la langue française et au débat autour de l'écriture inclusive. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
Benoît de Groult, donc vous, vous demandez qu'on vous appelle écrivaine et pas écrivain.
Oui.
Franchement, est-ce une grande victoire de l'humanité? Qu'est-ce que ça vous apporte?
Je trouve que le langage est symbolique. C'est très important d'être à l'aise dans les mots et de se désigner par un féminin, comme on l'a toujours été. Au Moyen-Âge, on féminisait, on était une vendresse, on était une tisserande. Et tout à coup, aujourd'hui, par un espèce de réflexe frileux, dans les professions de prestige, parce que les professions ordinaires, ça passe très bien, hein. On est agricultrice, mais on est écrivain, dès qu'on monte en grade. Alors je trouve
qu'il faudrait... vous dites à la dignité de la fonction.
Oui, tout à fait, c'est des fonctions de prestige. On
ministre,
est la secrétaire
maire,
d'un patron,
ouais.
Et à l'État, dans les postes supérieurs, on est madame le secrétaire d'État, la doyenne des Français, si on est centenaire, madame le doyen à l'université. Donc c'est pas la langue qui refuse, ce sont les têtes. Et on voudrait simplement régulariser, pas changer le langage. Faire fonctionner le féminin pour les noms de métiers, c'est tout.
L'écrivaine Benoît Groult sur France 3 le 4 mars 1994. Alors Benoît Groult a raison, au Moyen-Âge on trouve beaucoup de noms de métiers au féminin, abbesse, tavernière, en latin d'ailleurs la féminisation des noms ne posait pas de difficultés. Que s'est-il passé au XVIIe siècle? Pourquoi le vocabulaire s'est-il remasculinisé? Je cite par exemple le grammairien et académicien Claude Favre de Vaugelas, le genre masculin étant le plus noble, il doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. Julien Soulier, vous venez de publier etc., etc., la langue française se raconte.
Oui, alors c'est vrai que si on remonte au latin, qui pourtant n'était pas connu pour être une société très féministe, on va dire. Enfin, ça a évolué au fil des siècles quand même, parce que quand on parle du latin, c'est bon, c'est moins 500 plus 500, donc c'est quand même, c'est comme si on parlait du français aujourd'hui et il y a 1000 ans. Mais bon, bref, en latin, donc effectivement, auctor, auctrix, genitor, genitrix ne posait aucun problème. Au Moyen Âge, on l'a dit tout à l'heure, on l'a tous rappelé, effectivement, il n'y avait aucun problème non plus pour féminiser. On avait poétesse, on avait même clergeresse, le féminin de clerc. Donc ça ne posait aucun problème. Et puis tout d'un coup, effectivement. À partir du moment où on a créé l'Académie française, alors c'est vrai que si on regarde plus largement la langue, c'était un peu la pagaille hein, quand même dans la langue, l'orthographe à l'époque, c'était un petit peu. Donc il a fallu un petit peu nettoyer, mais en nettoyant, il y en a qui ont été peut-être un petit peu trop stricts et un petit peu trop maniaques et qui, plutôt que nettoyer, ont corseté la langue. Et donc effectivement, à partir du 17e, on a des grammairiens comme Vaugelas et puis l'abbé Bourg, un abbé forcément, enfin je ne dis pas plus, mais forcément qui, évidemment, en excluant les femmes de certains champs professionnels, eh bien, on exclut les femmes du lexique. Et donc ça, si ce n'est pas de l'idéologie, hein, je répète un petit peu, c'est mon mantra, mais si ça ce n'est pas de l'idéologie, je ne sais pas ce que c'est.
Julie Neveu, professeure de linguistique.
Oui, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que, en effet, ils ont voulu nettoyer la langue, donc les premiers académiciens, et en fait, ils l'ont tout de suite exprimé en disant on veut la purifier. Et donc l'intention puriste est à la base de la fondation de cette académie prestigieuse. Et en fait, on sort tout doucement, là, de 3 siècles d'autorité, guidée par des personnalités, des personnages, en effet, sexiste. Je crois qu'on peut pas nier ça. On peut tout nier, mais ça, on ne peut pas nier qu'il y ait inflexion du cours de la langue et que certaines autorités qui étaient misogynes ont, évacué des mots du lexique. Ensuite, c'est autre chose pour la grammaire, donc. Mais il y a eu aussi, bien sûr, cet accord de proximité. Je sais pas si Ali, vous êtes prêt à en entendre parler, si on peut en parler. Mais il y a eu aussi, donc, il y avait beaucoup de variations, en effet, hein, jusque milieu 17e et même début 18e, hein, beaucoup, beaucoup de variations. Donc, c'est vrai que c'était peut-être nécessaire aussi de réguler un peu, hein, d'instituer des règles. Et par ailleurs, Vaugelas a fait un travail magnifique aussi. Hein. Donc c'est loin de moi l'idée de le caricaturer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des positions qui étaient misogynes. Voilà. Et donc l'accord de proximité, bah, c'est-à-dire que jusque tout le 17e encore, il y avait un accord qui était possible, qui était de dire les hommes et les femmes sont belles. Parce que les femmes étaient le sujet le plus proche de l'adjectif belle, donc pas beau. Plutôt que les hommes et les femmes sont beaux. Et c'est cette règle qui a cessé d'être pratiquer. Et donc là, on revient aussi, c'est une autre des propositions des partisanes de l'écriture inclusive, à savoir de revenir à cette règle de proximité. Mais je pense que le grand public n'est pas du tout prêt. Hein.
Anne Dister, linguiste en Belgique.
Oui, oui. Bah, à propos de l'accord de proximité, c'est vrai que bah, l'exemple que Julie vient de donner, il est aussi un peu caricatural, parce que bah, évidemment, c'est très choquant d'avoir le bel qui est si audible au féminin. Et c'est vrai que cet accord a existé, mais contrairement à ce qu'on se plaît à nous dire aujourd'hui, c'est pas du tout un accord qui était majoritaire. Et donc, quand on fait vraiment des études de corpus de manière sérieuse, minutieuse, et pas seulement en gardant les exemples qui intéressent notre propos, mais en analysant tout ce qu'on peut avoir comme données, c'est une évidence que cet accord a existé, mais il n'était pas majoritaire. Et donc, autant les grammairiens et les académiciens ont tenu effectivement des propos sexistes et machistes et ont un peu orienté ce qui concerne le lexique, autant quand ils font cette fameuse règle qui dit que l'accord se fait, eux ils ne disent pas l'accord se fait au masculin, c'est le masculin plus noble, enfin, il y a des formulations qui sont navrantes, mais autant quand ils vont codifier ce qu'est la règle, ils le font en fonction de ce qu'est l'usage majoritaire de l'époque, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a un peu tout un discours aussi qui entoure aujourd'hui cet accord de proximité, comme si on était allé à l'encontre de l'usage en codifiant la langue. Et là, il faut quand même remettre un peu les choses en place et dire c'est pas vrai. C'est accordé vraiment beaucoup de poids aux grammairiens, et si les grammairiens avaient tant de poids que ça par rapport à ce que c'est l'usage, ben on verrait qu'on accorderait beaucoup mieux notre participe passé aujourd'hui, puisque les grammairiens nous disent qu'il faut le faire, et c'est pas le cas. Voilà. Donc cet accord, il a effectivement existé, et par ailleurs, il a moins existé dans la position que Julie donnait avec en position d'épithète avec le son. Là, l'accord, il était quand même très majoritaire au masculin. Là où il pouvait être plus utilisé, c'est mon papa, les hommes et les femmes belles, par exemple. Ça, sans le son, si vous voulez, en fonction d'épithète. Mais voilà, donc cet accord a existé, mais loin d'être l'usage le plus courant qu'on nous dit aujourd'hui. Puis par ailleurs, ça c'est aussi, j'imagine que Bernard va intervenir là-dessus, c'est est-ce que si on veut revenir à ce qu'il y avait 300 ou 400 ans, on va aussi se remettre à rétablir un certain nombre d'usages qui existaient à l'époque. Je ne suis pas sûre que c'est la direction que la langue doit prendre.
Non, bien sûr, Anne a raison. Et la langue évolue régulièrement tous les jours. Par ailleurs, le français est une langue qui a été bien codifiée. Rendons hommage à ces grammairiens. Nous sommes passés d'une langue avec beaucoup de variations, peut-être un peu trop, à la belle langue de Racine régulière. Mais ces grammairiens, Julie l'a dit, étaient tous des hommes. Vous avez cité l'abbé Bourg, Vaugelas était célibataire et on ne lui connaît pas de grand amour. Et donc, pour reprendre le mot d'idéologie, ils ont travaillé dans une perspective masculine. Dans leur travail, il y a une certaine orientation. Et en plus, ils ont favorisé une tendance profonde de la langue aussi, parce que la langue est dans une société, à valoriser les hommes. Tout cela se tient. Tout cela se tient et fait cette primauté dans la langue donnée à un certain masculin qui passe pour lié au sexe de masculin. Vous voyez ?
Question qu'un enfant de 8 ans pourrait vous poser. Comment expliquer que certains mots soient masculins et d'autres féminins? Pourquoi dit-on la lune et le soleil et pas la soleil et le lune? Julien Soulier, ça tombe sur vous.
Ben oui, comme d'habitude. Alors là, je pense qu'il faut préciser deux choses. La première, c'est qu'effectivement, quand on parle d'abstraction ou d'objet, le genre est arbitraire. Donc effectivement, on dit le soleil, la lune, en allemand c'est exactement l'inverse. Donc là, il s'agit effectivement d'un arbitraire purement grammatical. En revanche, quand on désigne des personnes, là bien évidemment, l'arbitraire peut tomber. Et on dit bien le professeur, la professeure, maintenant on dit le professeur, la professeure, on dit le cafetier, la cafetière, l'hôtelier, l'hôtelière. Donc il n'y a pas de problème à féminiser, on l'a dit. Mais c'est vrai que il faut bien distinguer, je pense, ce qui relève de l'arbitraire grammatical, l'arbitraire du signe linguistique, donc c'est effectivement la table, la chaise, mais le tableau, enfin. Et puis à côté, ce qui relève effectivement des personnes, des êtres humains qui peuvent être genrés et donc qui ont un genre grammatical assigné. Alors effectivement, souvent on me ressort on dit la victime, effectivement la sentinelle. Bon, d'accord. Il y a quelques noms qui désignent plutôt des hommes et qui sont féminins. Mais il faut voir de quoi on parle. Ce dont on parle, c'est le fait que les revendications sont en faveur des femmes. C'est de ça qu'il faut partir. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est l'égalité homme-femme. Alors, on la veut peut-être au point de vue salarial, on la veut aussi au point de vue linguistique. Donc, aller chercher ces cas à la marge, ça relève un petit peu la mauvaise foi. Et ma foi, personnellement, qu'on dise à un moment donné le victime pour désigner un homme ou le sentinelle, pourquoi pas non plus.
Surtout qu'on on l'a dit, bien sûr.
Christophe nous écrit « J'entends le débat sur le mot autrice et j'avoue avoir du mal avec celui-là car il me fait mal aux oreilles. Et j'ai du mal avec maîtresse également à cause de son sens sexuel, tout comme jardinière, où je vois toujours l'objet. Pour le reste, je n'ai aucun souci à féminiser les mots. » Manu nous dit « À quand le féminin de vainqueur ?» C'est vrai que vainqueuse n'existe pas. Oui, d'ailleurs, Bernard Cerchiglini, vous consacrez un chapitre de votre livre « Le ministre est enceinte » à l'atelier du féminin. Comment on féminise ? Quels sont les grands principes pour féminiser des noms de métiers qui n'ont pas d'équivalent féminin ?
Dans un magnifique ouvrage, Anne Dister et Marie-Louise Moreau ont donné une règle simple. On féminise en ajoutant un « e » au mot, sauf quand il existe déjà comme architecte ou juge. Et puis, ayant ajouté le « e », il y a quelques petites règles, accent grave ou doubler le « t » et autres. Mais en gros, ça se fait tout simplement par l'adjonction d'un « e ».
Anne Dister.
Oui.
Anne, j'ai simplifié votre point de vue.
J'étais en train de me remettre du compliment de Bernard. Sur cette question du j'aime pas, ça m'écorche l'oreille, etc. Je vous suggère vraiment un exercice que je fais toujours avec mes étudiants, c'est que je choisis une série de mots dont je sais qu'ils font, pour reprendre l'expression, mal aux oreilles. Et puis, dans la liste, à la fin, je mets aussi des mots qui ont la même terminaison, mais que j'ai inventé. Et on constate en fait que pour des mots dont les gens ne connaissent pas le masculin, ils n'ont aucun problème de créer un féminin. Parce que ces règles morphologiques, en fait, on les a intégrées. On sait que des heures font euses, des teurs font tris, des yé font hier, etc., etc. Et qu'à soldat, il n'y a qu'un e à ajouter à l'écrit, on fait sonner la consonne à l'oral, ça fait soldate. Et bien, soldat, c'est moche. Et si j'invente un mot qui finit par a, que les gens ne connaissent pas, ils n'ont aucun problème à faire le féminin en hâte. Parce que le masculin leur fait pas plus mal aux oreilles que le féminin, ils connaissent aucun des deux mots. Donc c'est ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est vraiment une question, c'est juste une question d'habitude, vraiment. Et la morphologie du français, elle nous permet de faire tous les féminins. Alors pour revenir à vainqueur, je viens d'aller vérifier, dans le guide, nous on propose une vainqueur, avec le « e » ou pas le « e », ça c'est un peu comme on veut, mais le jour où il y aura vainqueuse, enfin je veux dire, je vais pas hyperventiler, quoi. On verra les formes qui coexistent, et puis on verra celles qui s'imposent, et qu'il y ait de la variation, c'est vraiment, vraiment pas gênant.
Et je me souviens avec émotion ma grand-mère qui parlait de doctoresse il y a une trentaine d'années pour parler d'une femme médecin. Et c'est joli ça, doctoresse. Hein. Tiens, Corentine nous écrit « Je suis puéricultrice et je remarque que ces derniers temps, ce mot est de plus en plus remplacé par puériculteur. Dans ce cas, ça ne pose aucun problème de masculiniser le mot pour parler d'une corporation essentiellement composée de femmes. » Allez, je vous propose d'écouter Michel Sardou. Et oui, dans l'émission 7 à 8, c'était le 2 mai dernier.
Quel regard portez-vous sur la France actuelle ?
C'est vrai que nos libertés sont réduites, de par le Covid d'une part, mais ça je le mets à part, ça c'était pas prévu. Mais on peut pas rouler vite, on peut pas parler comme on veut, on peut pas avoir l'opinion qu'on veut, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si on dit ça ou ça, c'est mal vu, c'est tout de suite des réactions. Les réseaux sociaux... Putain, les réseaux sociaux. C'est terrible, les réseaux sociaux. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est l'écriture inclusive. Essayez de réciter le corbeau et le renard en inclusif. Le renard, renarde, point, S. Parce que ça peut être au pluriel, ça peut être les renards, les renardes. Ça, ça peut pas.
Avec nous, nous avons Marie. Bonjour Marie, bienvenue.
Bonjour.
Que vous inspire cet extrait que nous venons de diffuser de Michel Sardou
Alors bon, moi je suis pas tout à fait dans cette optique-là parce que mon mari et moi, nous venons d'écrire un roman policier et nous avons adopté l'écriture inclusive parce que ça nous semblait vraiment, vraiment la meilleure solution. Hein. Ça fait très longtemps que lorsque j'étais enseignante et donc professeur re, j'ai utilisé le féminin systématiquement. Et la seule chose, c'est que lorsqu'on écrit un roman avec l'écriture inclusive, c'est quelquefois un petit peu difficile de tout faire avec l'écriture inclusive. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle des saisonniers, saisonnière, bon, on peut mettre un point après saisonnier, point RS, mais, et avec un point qui précède le S, mais lorsqu'on dit toutes et tous, on n'a pas de solution pour ça, par exemple. Donc ça, c'est un petit problème. Mais on peut très bien imaginer... Pardon ?
Non, ce qui fait débat, Marie, c'est l'emploi donc de ce point médian, hein, qu'on alors, appelle également aussi, oui. Point d'altérité, et voilà. Ce point d'altérité alors, est censé bannir la suprématie du masculin sur le féminin au pluriel.
Oui, mais le point médian, alors je ne sais pas, c'est une de mes questions, j'aimerais savoir si c'est exact. Lorsqu'on lit, j'ai eu l'occasion de lire des articles, hein, mais pas de romans avec le point médian systématiquement, paraît-il, cela gêne la lecture, alors que le point, lorsqu'il est à la place du point habituel, ne gêne pas la lecture des personnes qui ont l'habitude de lire beaucoup, par exemple. Hein. Ça, c'était ma question. Si je peux me permettre...
Oui, allez-y, pardon.
Je voulais aussi, j'avais deux petites choses. D'une part, notre éditeur, hein, les presses littéraires à Perpignan, ne nous a absolument pas, n'a pas posé aucun problème là-dessus, parce que c'est le choix de l'écrivain ou de l'écrivaine. Nous avons opté pour auteur et auteure, d'ailleurs. Mais, autant dire hein, que de ce côté-là, c'est ouvert. On n'a pas de choses imposées. Et la deuxième chose que, si vous permettez, c'est ce qui fait référence à ce qu'un de vos intervenants a dit tout à l'heure, c'est par rapport à la langue allemande. Moi, j'étais professeur d'allemand, donc je sais de quoi je parle. Ils ont adopté depuis très longtemps une écriture inclusive qui est très simple, évidemment, parce que la langue le permet. Tout masculin, tout métier masculin a son féminin en rajoutant IN à la fin du mot. Donc quand on veut parler des deux, on met un I majuscule et comme ça on comprend que ça veut dire le et la, ou au pluriel avec la forme plurielle.
Alors donc Bernard Cerchellini, Marie a écrit un roman avec son mari, utilisant l'écriture inclusive. Pour certains, cette écriture inclusive dans la fiction, dans un roman, est une entrave au plaisir de lire, et une gêne. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, nous lirons le roman de Marie pour nous en convaincre. Jusqu'ici, nous avons parlé de la langue, des féminins et des masculins. Et la langue allemande, en effet, féminise sans problème, la langue italienne aussi. Il s'agit de lexique, comme disait Julie tout à l'heure. Cette définition, et c'est donc une façon d'inclure, c'est l'écriture inclusive, bien sûr. Mais l'écriture inclusive dont parle Marie, c'est une typographie. C'est-à-dire un point au milieu ou en bas, une façon d'écrire saisonnier, point, E, R, ainsi de suite. C'est une typographie. Et cette typographie, on peut concevoir qu'elle soit utilisée dans des cas très particuliers, comme quand on publie la vacance d'un poste. On recherche un directeur, point, RIST, communication. Pour un roman, quand on écrit, on joue, on se confronte à la langue, bien sûr. On fait progresser la langue, on l'utilise. Je suis un petit peu réticent, car il y a tout ce qu'il faut dans la langue. Le général de Gaulle, le premier, a dit « française, français ». Nous pouvons dire « les saisonniers et les saisonnières ». Pourquoi utiliser une typographie qui est difficile à lire, difficile à enseigner, chère Marie, qu'on oralise difficilement, alors que c'est donc rajouter des signes nouveaux à une typographie ancienne, et je m'inquiète pour la littérature, pour l'écriture et pour la langue. Je suis assez réticent pour un emploi en dehors des domaines très particuliers et très techniques.
Allez, on continue à s'intéresser à l'écriture inclusive dans quelques instants, juste après la femme qui interprète le sang de mon prochain.
Je suis le sang de mon prochain, je sème la mort et la tempête, je suis la vengeance et la haine, et je vais là où le vent m'emmène, je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. Je sais que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
La femme interprétait le sang de mon prochain.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
Et on s'intéresse à la féminisation de notre langue. Je vous propose d'écouter un extrait de la chronique de Julia Foyce consacrée à l'écriture inclusive. C'était jeudi dernier dans Grand bien vous fasse.
Défendre l'écriture inclusive, c'est se battre pour des points de détail. Mais puisqu'on parle de points, Ali.
Oui, le point médian, vous savez que j'adore.
Oui, celui-là même qui déclenche toutes les polémiques. Premier argument pour ceux qui le détestent. C'est illisible. Bonne nouvelle, vous n'avez pas à le lire, du moins pas à voix haute. Il est écrit français.e.s. À l'oral, vous pourrez toujours dire les Françaises et les Français. Quant à la lecture pure, in petto, hein, comme on dit. Bon. Quand vous voyez mentionner une surface dans un texte, est-ce que vous lisez M petit 2? Ou est-ce que c'est bon, vous arrivez à comprendre mètre carré? Parce que là, c'est pareil, hein, vous devriez y arriver. Sauf si vous êtes dyslexique, c'est vrai, ce sera plus compliqué. Mais c'est marrant comme tout à coup, on se préoccupe tous très très fort de la dyslexie. Même le ministre s'y met, hein, je le cite, « Mettre des points au milieu des mots est un barrage à la transmission de notre langue pour tous, par exemple pour les élèves dyslexiques. »
Et que pensez-vous de ces arguments, Anne Dister?
Oui, ben moi je pense qu'il n'y a pas que les élèves dyslexiques qui ont des problèmes, quand on voit les résultats aux études PISA. Et par ailleurs, puisqu'il faut être bref, il y a une comparaison qui est toujours faite, c'est que M2 pour mètre carré, on n'a pas le même travail cognitif, c'est pas le même processus cognitif pour oraliser et comprendre que quand on a directeur-pointrice, où il suffit pas, il faut savoir quand on a directeur-pointrice si c'est directeur et directrice ou directrice, et voilà, les coupures se font pas nécessairement bien dans les mots, donc il y a des comparaisons qui me paraissent pas justifiées, voilà.
Julie Neveu.
Oui, moi je trouve ça important de dépassionner le débat. Et si vous voulez, là, on a eu des très bons exemples avec vos extraits, Ali, parce que donc Marie qui a appelé serait plutôt donc zélée. Elle voit une cause juste et nécessaire à pratiquer l'écriture inclusive, même dans les romans. Et de l'autre côté, on a Michel Sardou qui honnêtement reflète la majorité de la population ici et qui se moque en réécrivant Le Corbeau et le Renard, chose qui évidemment est passée sur les réseaux sociaux, etc. Et qui n'existait pas. C'est-à-dire, ça a été une version caricaturale de l'écriture inclusive. Donc d'un côté, la caricature. On tourne en ridicule les propositions. De l'autre, il y a des très zélés. Et au milieu, la majorité des gens sont là. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, en fait, c'est une abréviation, hein, le point médian. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Dans les offres d'emploi, c'est très pertinent parce que des études psycholinguistiques ont montré que s'il n'y a pas ingénieur.e, les femmes ne vont pas envoyer des propositions. Donc là, allons-y. Le roman libre à chaque auteur. Moi, c'est vrai que ça me paraît un contexte peut-être pas si pertinent puisqu'il s'agit de faire une référence avec les femmes. Est-ce que vous faites ça dans un roman avec une vision des personnages qui existent? Enfin, que vous, donc vous essayez de faire comme s'ils existaient. Donc voilà, il y a des contextes qui sont assez restreints où on peut l'utiliser. Et puis, il y a un débat qui est très passionné parce qu'il y a trop d'enjeux, en fait.
Et je termine avec un sourire. Geneviève qui nous écrit « Un gars, c'est un jeune homme. Une gare, c'est une prostituée. Un courtisan, c'est un proche du roi. Voilà. Une courtisane, c'est une prostituée. Un masseur, c'est un kiné. Une masseuse, c'est une prostituée. Un coureur, c'est un jogger. Une coureuse, c'est une prostituée. Un professionnel, c'est un sportif de haut niveau. Une professionnelle, c'est une prostituée, etc. Voilà, etc. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup Anne Dister, Bernard Cerchiglini, Julie Neveu et Julien Soulier. Toute la bibliographie est disponible sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Demain, on s'intéresse au plaisir du parfum. Racontez-nous les parfums qui vous enivrent, ceux qui vous révulsent et plus généralement, quel est le rôle des parfums dans votre vie. Contactez-nous dès maintenant sur l'appli France Inter.
Grand Bien Vous Fasse avec Aesio Mutuel. Santé, prévention, prévoyance, retraite, décidons ensemble de vivre mieux. Rendez-vous sur aesio.fr.